À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Alain Françon, metteur en scène.
Quatrième épisode, le metteur en scène et le directeur. Bonsoir Alain Françon.
Bonsoir.
Ce soir, j'aimerais que nous nous penchions sur vos expériences de directeur de théâtre. Et pour commencer, profitez du lieu où nous sommes, puisque nous sommes dans une loge de théâtre à La Scala, à Paris. Les lieux du théâtre, que diriez-vous des lieux du théâtre? Par exemple, une loge, ça représente quoi? C'est moins pour un metteur en scène ou un directeur, bien sûr, que pour un acteur, une loge. Mais quels sont pour vous, pour le metteur en scène que vous êtes et pour le directeur que vous avez été, les lieux dans le théâtre les plus importants, les repères?
Le lieu le plus important, c'est la salle de répétition, je crois. Enfin...
Qui est la salle où on joue? Qui est la scène où on joue?
Non.
Pas toujours?
Non, pas toujours.
Voire jamais?
Non, jamais, ouais. Par exemple, à La Colline, la salle de répétition était en sous-sol. Et quand j'ai dirigé La Colline, j'ai fait acheter un immeuble par le ministère pour faire des salles de répétition.
Ah oui?
Oui. Non, c'est très important. Avec Jean-Pierre Vincent, on avait l'habitude de dire il faut diriger un théâtre depuis la salle de répétition. Donc ça voulait dire, ça avait des conséquences énormes. Ça veut dire que... parce que quand on se met à répéter avec les acteurs, c'est comme si on fabriquait une espèce d'assemblée, voilà, première, où finalement le metteur en scène n'est jamais que... Oui, il a l'autorité, on lui a délégué, pas le pouvoir, mais l'autorité, les acteurs lui ont délégué l'autorité. Mais donc ça se passe c'est suivant des règles qui sont très, très particulières. Par exemple, à La Colline, avec les acteurs, je répétais le samedi, donc on faisait pas 35 heures, on en faisait plus, c'est peu importe. Par contre, la technique nous suivait pas. Je veux dire, donc c'est très compliqué parce que avec les acteurs, ils avaient un statut d'intermittent. Il y avait au contraire la technique et l'administration qui étaient permanentes. Et donc diriger le théâtre depuis ce lieu-là, c'était pour moi important parce que quand on était en plus au sous-sol, au moins un, quand on arrivait. Au rez-de-chaussée, on était dans la salle, justement, avec la technique. Et là, on se rendait très bien compte que le temps ne nous appartenait plus. Le temps appartenait à la technique, c'est-à-dire que c'est eux qui faisaient l'emploi du temps, à savoir à quelle heure on commençait de répéter, quand est-ce qu'il y avait les pauses, quand est-ce que nous, on devait recommencer à répéter, etc. Et si je montais plus haut à l'administration, je me rendais compte que le spectacle que j'étais en train de répéter, les gens qui étaient chargés d'en faire publicité, c'est pas le mot, disons, les relations publiques, en tout cas, écrivait des choses sur le spectacle qui me paraissaient pas forcément justes par rapport au spectacle que j'étais en train de répéter. Je comprenais très bien qu'il le faisait pour qu'il y ait le maximum de monde dans la salle. Mais donc c'est très compliqué de garder l'intégrité, je pourrais dire, de ce qui se passe dans la salle de répétition, dans un théâtre.
Mais est-ce que ce n'est pas finalement être metteur en scène et directeur qui est le plus dur? Est-ce que vous diriez que ça vous a donné une acuité de regard différente, justement? Ça a été un handicap ou un atout pour diriger un théâtre?
Non, c'est pas forcément un atout, mais je pense que c'est une charge qui est. Je pense qu'il faut passer par là. Je pense que c'est important.
Passer par là, c'est-à-dire passer par metteur en scène pour être directeur ou passer par le directeur?
Non, passer par le fait que étant metteur en scène, on puisse diriger une institution et y compris un théâtre national. Quand je suis arrivé quand même à La Colline, il y a des gens qui m'en ont voulu de dire ça, mais il y avait 98 salariés et il n'y avait pas un salaire d'acteur sur les 98. Ça m'a toujours paru tellement étrange. Enfin, le théâtre, ça se fait d'abord avec les acteurs. Parce que s'ils sont pas sur le plateau, c'est même pas la peine, hein, y a personne. Je sais pas comment dire, c'est formateur, parce que ça, effectivement, ça remet la création, c'est-à-dire ce qu'on est en train de répéter dans un contexte très précis. Et puis aussi, il y a le rapport au spectateur. Enfin, je veux dire, c'est, quand on est comme je suis maintenant en compagnie, où on joue dans un théâtre à Paris, et après on fait des tournées 3 mois, 4 mois. Je veux dire, on connaît pas les publics. Enfin, je veux dire, c'est... Tandis qu'à La Colline, au bout de... J'ai fait, je crois, 13 saisons, 14. Il y avait des gens du public, des spectateurs avec qui j'étais très familier. Ou si je les connaissais pas, ils savaient que j'étais dans le hall, ils venaient me parler. Et pour moi, c'était très, très important de... Ce rapport-là, c'était un rapport, disons familier, c'est le mot qui vient, mais c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de savoir ce qu'ils pensaient, les critiques qu'ils pouvaient faire, etc., y compris sur les spectacles.
Dans le livre d'entretien que vous avez fait avec la journaliste Odile Quirot, qui s'intitule « La voix des textes » et qui est un livre très très intéressant, vous parlez de votre conception du théâtre avec. Est-ce que le théâtre avec inclut la direction d'acteur? Est-ce que penser un théâtre avec, c'est aussi penser un théâtre, justement, depuis l'intérieur du théâtre, avec tout le monde dans le théâtre?
Oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est qu'en fait, avec les acteurs, on fait comme une première assemblée, puis en fait, il y en a une deuxième qui se compose au moment de la représentation, quoi. Et donc, c'est important de... J'avais choisi le mot avec parce que, justement, le mot ensemble me paraissait un peu utopique avec les spectateurs. Donc, je préférais dire avec les spectateurs que plutôt ensemble. Et puis, il y avait cette phrase de De Santi qui revenait tout le temps, qui est « Nous ne voient rien ». Et je trouvais cette phrase absolument géniale parce que, oui, elle dit que nous ne voient rien, mais que je plus je, on peut voir, quoi. Et donc, c'était ça, l'idée de « avec ». On pourrait reprendre le mot d'Antoine, hein, « élitaire pour tous », mais avec les gens, mais sans forcément être ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus beau quand une salle, par exemple, au théâtre, est relativement divisée. Il ne s'agit pas de faire la bataille d'Hernani chaque fois, mais quand on sent que la salle est divisée, qu'il n'y a pas forcément de consensus... Il n'y a rien de plus terrible au théâtre que de chercher le consensus, de toute façon, dans un spectacle.
Vous nous expliquerez tout à l'heure, quand on parlera de La Colline, justement, et de votre... aux 14 ans, La Colline, hein, de 96 à 2010, Alain Françon, quelle vision du théâtre? Comment vous avez concrètement mis en œuvre cette vision du théâtre avec dont vous venez de nous parler? Mais avant La Colline, il y a eu d'autres expériences, oui. Sans doute des expériences formatrices, d'ailleurs. Ça a commencé par Lyon. Vous avez dirigé le théâtre du 8e, le fameux Centre dramatique national de Lyon. C'était en 89.
Oui.
Hein, vous avez accepté d'y aller. Vous succédiez à Jérôme Savary.
Oui.
Ça n'avait pas été évident parce que ce n'est pas exactement la même chose. Lui, il était nommé à Chaillot à la suite d'Antoine Vitez, qui lui-même avait été nommé administrateur de la Comédie Française. Ça, il décédera un an plus tard. Et vous restez au théâtre du 8e à Lyon 3 ans. Oui. Ça, c'était la première expérience.
Oui.
Quand vous êtes arrivé au théâtre du 8e à Lyon, vous vous êtes dit... c'est une continuité logique pour moi d'être directeur de théâtre ou pas du tout?
Pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais refusé plusieurs autres directions d'institutions. Et puis les gens du ministère, je les ai croisés un jour à Avignon, m'ont dit « Vous allez au 8e et si vous voulez pas y aller, on vous proposera plus rien ». Donc j'ai dit bah oui, il faut y aller de toute façon. Et puis je sais pas, l'institution,
pourquoi il faut y aller de toute façon? Vous pouviez rester metteur en scène, pas...
Oui, je pense qu'il y a aussi l'intérêt que peut-être on peut produire des spectacles plus facilement, que on peut inscrire les créations qu'on fait par rapport, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à un public dont on peut appréhender la composition, voir qui ils sont, etc., quoi. Donc je pense que c'était important. L'expérience était relativement délicate, puisque Savary venait de monter Cabaret, je crois. Il avait 10 000 abonnés. Mon nom sur l'affiche, ça a fait 3 000 abonnés, quoi. Donc c'était compliqué. Et puis, en fait, c'est ce qui m'a décidé, d'ailleurs, c'est le premier spectacle que j'ai fait à Lyon, de monter La Dame de chez Maxime.
De Feydeau.
Parce que je me suis dit, il faut le faire, quoi. Il faut monter La Dame. Comme ça, je vais montrer que voilà, je suis pas forcément quelqu'un qui fait des spectacles difficiles, etc. La réputation que je pouvais avoir, quoi, ou élitaire ou autre chose, quoi.
Et donc
on a fait La Dame. Et on a fait La Dame de chez Maxime, et c'était formidable parce que le spectacle a été nominé, Valadier a eu le Molière et tout ça. Donc voilà, c'était une première expérience. Par contre, c'était très délicat parce que c'était une municipalité complexe, dont le maire était le fameux Michel Noir. Et c'était des gens qui comprenaient absolument pas ce qu'on faisait, quoi. C'est-à-dire que comme la salle était municipale, sans arrêt, ils nous téléphonaient pour savoir si la salle était libre pour, parce qu'ils voulaient faire un spectacle avec Nicoletta ou je sais pas, voilà, des choses comme ça. Et chaque fois, je refusais en disant, mais non, vous comprenez pas que dans un théâtre, on répète et on travaille. Donc, voilà, non. Alors il disait, oui, mais une salle comme ça, il faudrait qu'elle fasse 250 levées de rideaux par an. Ben, je disais, non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc ça a duré 3 ans, et au bout d'un moment, je dois dire, je me suis énervé beaucoup, que j'ai pas toujours été très poli avec ces gens, mais volontairement. Et puis, à un moment, ils m'ont proposé, parce que vraiment, ils s'en pouvaient plus, de faire un échange entre la Maison de la Danse, le lieu où il y avait Darmé qui faisait la Maison de la Danse, et qu'on échange des lieux. Donc j'ai refusé. Comme au ministère, le directeur du théâtre, Fèvre d'Arcier, plus Jacques Lang, qui était le ministre, je leur ai expliqué que ce que je pouvais faire, c'était partir de Lyon avec le titre de centre dramatique, plus la subvention, et aller installer un nouveau centre dramatique, le créer en Savoie, Annecy et Chambéry, que j'avais l'accord des deux maires pour le faire, et de la région. Et donc ça s'est fait. Et donc je suis parti quand même très fier de Lyon avec la subvention et le titre de centre dramatique.
Le centre dramatique national, c'est une scène donc publique. Ça veut dire que l'entièreté des fonds, les 100% des fonds, sont publics.
Entre l'État et la municipalité.
Et la collectivité territoriale.
Oui.
Ce qui explique les relations permanentes avec les politiques d'un directeur de théâtre.
Oui.
Vous diriez que c'est l'essentiel du travail ?
Non, c'est pas l'essentiel du travail, non. Non, je dois dire que même quand j'étais à la colline, j'ai jamais eu de pression, quelle qu'elle soit, de l'État ou du ministère de la Culture. J'ai eu comme ça des discussions sur des problèmes sur lesquels j'étais pas d'accord, mais on pouvait discuter. C'était simple, quoi. Il y avait pas de pression du tout.
Et alors, vous aviez eu l'expérience d'un directeur de troupe, mais malgré tout, avec le théâtre éclaté, notamment, d'un meneur de troupe. Et puis ensuite, quand on est metteur en scène, là, pour le coup, on dirige son petit monde. Quand on passe directeur d'un théâtre, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne connaissiez pas encore? L'administration, la technique, justement le rapport au temps des uns des autres, les statuts. Qu'est-ce qui vous a semblé compliqué que vous ne connaissiez pas et que vous avez dû apprendre?
C'est comme un apprentissage des relations humaines, en fait. En dehors de la création, en dehors des problèmes, en dehors de tout ce dont on parle avec les acteurs. Je veux dire, tout à coup, il faut sortir de la salle de répétition, et puis c'est pas un autre langage, mais c'est pas une autre manière d'être non plus, mais enfin, c'est des responsabilités, enfin, je veux dire, sur tout, enfin, je veux dire, mais y compris sur les accidents, hein, Lavelli, avec qui j'ai succédé, il y a eu un accident, il a été presque inculpé, enfin, en tant que directeur, donc c'est de vraies responsabilités sur tous les plans. Mais en même temps, c'est pas forcément triste, ça peut être joyeux, quoi, si les gens adhèrent. Et à la colline, il y a eu beaucoup d'adhésions, aussi bien de l'administration que des gens de la technique. Pas tous, évidemment. Il y a des, il y a des gens avec qui j'étais, qui savaient vraiment, mais c'était des positions très tranchées, qui savaient que je n'étais pas d'accord avec eux. Mais voilà. Mais, par exemple, il m'est arrivé mais c'était pas par rapport à notre travail. À la colline, il y a eu une grève. Moi, je jouais une pièce de Bond qui s'appelait Chaise. Toute la technique voulait une augmentation de salaire, mais assez considérable. Et je voulais pas le prendre, moi, sur la part artistique du budget. Donc j'avais dit non. Mais j'avais dit, si vous voulez, on va voir le ministère et on s'explique avec eux. Et s'ils veulent vous augmenter la subvention, ben, ça sera pour vous, évidemment. Mais donc, ils ont fait grève. Et moi, j'ai dit aux acteurs, cette grève, je la supporte pas, donc on va jouer quand même. Et on a joué. Et donc, je me suis retrouvé une quinzaine de fois dans la salle, à taper dans les mains, et puis au milieu du public, à dire noir, lumière, noir, lumière. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment, parce que finalement, j'avais gagné beaucoup de respect de tout le monde à faire ça, quoi.
Et vous en avez pas voulu, les techniciens ?
Non, pas du tout, au contraire. Parce que j'avais eu le courage d'affronter, de dire non, quoi. Et de le faire quand même. Et de montrer, là ils m'en voulaient un peu, de montrer qu'on pouvait exister sans eux.
Bah oui, là ils devaient vous en vouloir un peu quand même.
Mais vraiment après c'était formidable après, parce que c'était quelque chose qui s'était simplifié dans le rapport, quoi.
Qu'est-ce que vous gardez, Alain Françon, de votre passage au CDN de Savoie? Le CDN de Savoie est né en 92, hein, donc c'était assez récent, disons, quand vous êtes arrivé à la tête. Grand moment de liberté, bon souvenir.
Oui, parce que comme c'était une institution concrète, on a fait en sorte qu'elle soit uniquement artistique presque. Donc il y avait je crois 8 permanents, ce qui est très peu, quoi. Et tout le reste de la subvention était sur l'artistique, sur les intermittents techniques engagés, sur les acteurs, c'était une liberté incroyable. Avec des rapports très amicaux avec la direction des deux scènes nationales, puisque c'est eux qui avaient les salles, hein, la scène nationale de Chambéry et celle d'Annecy. Mais on avait un protocole où on était un peu prioritaire quand on faisait des créations, donc voilà, ça allait. Puis, je veux dire, c'était assez curieux de revenir à Annecy. C'était plus le premier maire avec l'écharpe tricolore qui nous avait... sorti avec les CRS, c'était son fils, mais il était beaucoup plus... Voilà, c'était simple. Et voilà, l'époque avait changé. C'était très drôle que je me retrouve à Annecy, mais admis cette fois et pas rejeté, quoi.
Et donc, en 95, on vous propose de succéder à Georges Lavelli à la direction du Théâtre de la Colline à Paris. Alors là, c'est un petit changement parce que le Théâtre de la Colline, c'est un des 5 théâtres nationaux français. Avec la Comédie Française, avec Chaillot, avec l'Odéon Théâtre de l'Europe et je crois le TNS, hein, le Théâtre de Strasbourg. Passer d'un CDN à un théâtre national, ça implique quelque chose de particulier ?
J'ai d'abord refusé. Pour moi, le théâtre qui se faisait à la Colline, je trouvais que c'était très proche d'un théâtre privé. La programmation, j'entends. C'est-à-dire, je sais pas, on peut monter une pièce de Thomas Bernard et puis mettre Annie Girardot comme... Enfin, je veux dire, il y avait des choses comme ça. Et puis en plus, je trouvais que le public avait un côté... j'y allais comme spectateur, évidemment. Hein, je trouvais qu'il avait un côté un peu endimanché, un peu manteau de fourrure, pour dire très vaguement, ou je sais pas quoi. Et donc au ministère, j'ai dit non, mais c'est un théâtre privé, je pourrais diriger ça, c'est pas mon truc, quoi. Et je me souviens plus, le conseiller du directeur du théâtre à l'époque m'a dit « Mais monsieur, c'est pour ça qu'on vous demande à vous. » C'est-à-dire pour changer, pour faire une véritable institution publique. Donc j'ai dit « Bah alors ok, si c'est ça, pourquoi pas, oui. » Et donc j'y suis allé comme ça, quoi. Mais j'étais pas candidat du tout, hein. C'était Et puis après, évidemment, ça fait beaucoup de monde. Mais c'est très curieux parce que, en fait, j'ai jamais eu le... Pour moi, ça n'a jamais changé la manière d'être en théâtre. C'est-à-dire, j'ai jamais eu l'impression que j'avais la responsabilité de 100 personnes salariées sur les épaules, tout ça. Ça m'a jamais très impressionné. Enfin, j'y pensais pas, d'ailleurs. Je continuais à me conduire comme je pouvais me conduire. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui fait du théâtre, qui est en théâtre, et puis qui a des idées, des croyances, même pas, mais, enfin, oui.
Alors, comment vous y êtes-vous pris pour transformer à votre façon ce théâtre de la Colline qui avait
une
programmation trop privée mais qui est devenue plus publique ? Quelle ligne avez-vous
adopté ? C'est passé par le répertoire. J'ai fait dans la grande salle, la première saison, la reprise de La Compagnie des Hommes d'Edouard Bond. Et là, on a fait un tabac parce que le spectacle, je ne sais pas, c'est l'époque, avait dû changer, contrairement à la première que j'avais fait au théâtre de la Ville. Ça a été un énorme succès, quoi. Et dans la petite salle, j'avais monté une pièce de Jeanne Durif. L'affiche était plus du tout la même que ce qu'il y avait eu avant. Mais je critique pas ce qu'il y a eu avant, parce qu'en fait, je me suis trompé. Je me suis rendu compte que Lavelli était quelqu'un de très scrupuleux et très honnête, et que ça avait rien à voir avec ce que je croyais. En fait.
Mais vous aviez envie, Alain Françon, de rajeunir l'affiche, venir des jeunes metteurs en scène, par exemple européens. Je crois que vous avez été d'ailleurs le premier à faire venir Thomas Ostermeyer.
Oui.
Sur la scène du théâtre de la Colline, où c'est un type de théâtre qui était le vôtre, qu'on a commencé déjà à voir, à travers les metteurs en scène que vous affectionnez particulièrement. C'est quoi?
C'est les metteurs en scène, hein. À l'époque, c'était, je sais plus, Fisbach, Cantarella, Lagarde, Régis, il a fait beaucoup de spectacles quand on y était, Novarina, Je crois que c'est vraiment un rapport au texte. C'est vraiment les textes qui changeaient, quoi. Comment dire, l'audace que ça pouvait représenter de, finalement, je sais pas, je crois qu'il y a des projets, j'avais pas le texte en main quand j'ai dit oui. Mais je faisais confiance ou à l'auteur.
C'était un pari.
Ouais. Ou à l'auteur ou à, au metteur en scène. Je sais que Valère, par exemple, quand il est venu, Novarina, une fois, je crois qu'il m'a dit, voilà, j'écris ça, t'es ok. J'ai dit, bah oui, bien sûr. Enfin, y a pas, voilà, c'est, y a... Et puis, ce qui a changé aussi, mais alors ça, c'est, mais pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que, en fait, je me suis dit qu'on ne pouvait pas seulement raisonner en termes de théâtreux. Donc, on a créé une association qui s'appelait Sensible, c'est-à-dire, mais sensible dans le sens pas de cible. Cibler personne, dans lequel il y avait des metteurs en scène et puis des philosophes qui venaient, des gens de cinéma, Jean-Louis Comolli, les philosophes c'était Marie-Josée Monzin, Revaud Dallone, et on réfléchissait ensemble à des termes très particuliers comme le mot représentation. Mais pour moi c'était, comment dire, fondamental cette réflexion. Bon, on se voyait tous les 15 jours, je crois, pendant très longtemps. Et on réfléchissait justement, et je me rendais compte que eux, les philosophes, ça les intéressait énormément, parce que le théâtre était une chose qui les intéressait, qui les inspirait profondément. Et nous, tout à coup, il y avait des... Ben voilà, ils disaient des mots. Des fois, c'était un mot, des fois, c'était une phrase, des fois, c'était autre chose qui... ça faisait tilt pour nous, et ça nous éclairait sur... pas sur ce qu'il fallait... Oui, mais aussi, si, quand même, sur ce qu'on devait faire.
Donc c'était aussi renouer les liens entre théâtre et philosophie, ou autrement dit, faire du théâtre ou refaire du théâtre un lieu de réflexion.
Un lieu de réflexion, absolument. Ouais. La diffusion de ces idées-là allait sur le public, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais très heureux quand les gens du public venaient et me disaient, bah écoutez, là, quand vous avez commencé, puis que vous nous avez enchaîné trois pièces de Bond, on s'est dit que peut-être on viendrait plus. Et puis maintenant, eh ben, on est tellement content de venir. Et donc, je me disais, ça y est, ça va, quoi. On a mis du temps, il fallait du temps. Hein. Mais aussi, par exemple, les philosophes et tout ça, je les ai fait venir aussi un jour parce que les pièces de Bond, par exemple, elles ont créé un espèce de dilemme. Il y a beaucoup de gens qui nous attaquaient profondément sur ce que ça représentait pour eux, esthétiquement, idéologiquement, etc., quoi. Et moi, je leur disais, qu'est-ce que vous en pensez, ouais. Moi, j'écrivais à Rancière, je lui disais, venez voir et puis dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai besoin de savoir. Je pense qu'en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est créer une identité à ce théâtre qu'il n'avait pas forcément avant. Oui, parce qu'on est allé loin. Je veux dire, on a monté des spectacles où c'était, entre guillemets, on était gonflé de faire ça, quoi. Mais il fallait le faire, c'est bien.
Et puis, diriger un théâtre, c'est penser une saison théâtrale, plusieurs même, d'ailleurs, et pas un seul spectacle. Est-ce que, Alain Françon, vous pensiez les pièces les unes par rapport aux autres dans l'année ?
Non, pour moi, c'est la chose qui m'a été le plus difficile de faire, c'est construire une saison. Parce que, en fait, le budget de la colline n'était pas, bon, il était conséquent, mais au niveau des coproductions, j'étais obligé de m'appuyer souvent sur d'autres coproductions pour arriver à monter des spectacles. Alors, quand il s'agissait d'un jeune metteur en scène qui en était à sa deuxième mise en scène ou d'un auteur qui en était à sa première pièce, souvent je trouvais pas les partenaires pour le faire. Tout seul, je pouvais pas le faire. Et donc, il y a beaucoup de projets qui sont restés sur la table, qui étaient peut-être des projets essentiels, mais ils sont restés sur la table, j'ai pas pu les faire.
Est-ce que vous pensiez les pièces les unes par rapport aux autres dans cette saison théâtrale où chacune était pensée indépendamment des autres ?
Non, elles étaient pensées indépendamment. C'était lié aux circonstances. Mais j'écris un truc un jour au ministère, j'écris un papier un jour au ministère pour leur dire j'en peux plus d'être le rayon prise unique du théâtre contemporain. Pour moi, ça veut plus rien dire. C'est-à-dire, oui, je peux mettre Novarina, Bond, Vinaver, côte à côte, c'est pas... Ce que je pense qu'il fallait faire, c'était faire les passerelles, c'est-à-dire faire une saison où on pouvait montrer, justement, à partir d'une pièce grecque, comment on pouvait mettre Shakespeare à côté et finalement finir avec Bond. C'est-à-dire que, par exemple, ce trio-là, cette passerelle entre eux, ça me semblait plus important que de mettre côte à côte les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, quoi. On pourrait faire pareil avec Vinaver, Tchekhov et peut-être Nicolas Doutet, sur lequel je travaille pour le moment.
Alain Françon, depuis 2010, vous vous consacrez à une nouvelle compagnie, le Théâtre des Nuages de Neige. Mais vous dirigez aussi des ateliers de jeux et de mise en scène dans diverses écoles nationales, hein, le TNS, le Conservatoire National de Paris, à Montpellier, à la Comédie Saint-Étienne. Est-ce que ça veut dire que vous avez aussi à cœur de transmettre ce savoir-faire qui a été le vôtre, aussi bien comme metteur en scène que comme directeur, précisément ?
Oui, enfin, je pense que la transmission, c'est une chose essentielle, mais... Pendant très longtemps, je voulais pas, parce que je pensais que j'étais pas, que j'avais pas grand chose à transmettre ou à dire. Et puis c'est Claude Stratz qui, quand il était directeur du conservatoire à Paris, qui m'a dit mais non, il faut absolument que tu viennes, c'est nécessaire. Donc il m'a convaincu. Et après, évidemment, ça m'a toujours énormément intéressé. Mais d'abord parce que c'est la rencontre avec une des générations d'acteurs qui sont qui est pas la mienne et qui en général j'ai toujours rencontré des gens qui sont magnifiques, quoi. Enfin, je veux dire, donc c'est très 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 important. Et je sais pas, j'ai pas forcément de technique particulière à transmettre. C'est plus une manière, ce que je disais hier sur Vinaver, une manière de lire les textes, comme Michel m'a appris à lire les textes un peu, ou des choses comme ça. Mais c'est formidable d'ailleurs, parce qu'il se trouve, par exemple, dans le spectacle que je suis en train de répéter, il y a trois élèves que j'ai eus. Le Marivaux qu'on a fait l'année dernière, il y en avait trois sur les six aussi, quoi. Donc c'est un mélange comme ça, ça me paraît totalement nécessaire, quoi. Et puis, on pourrait renverser le propos. Qu'est-ce que j'apprends, moi, quand j'y vais, quoi? Et ça, c'est important. C'est important parce que, là, par exemple, le dernier que j'ai fait, le groupe 47 à Strasbourg, c'est des gens qui avaient été choisis pendant le Covid, donc ils n'avaient pas fait de stage, etc. C'était compliqué. Et la promotion était étrange, vraiment. Et au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, ouf, pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose. Et en fait, on s'est mis à travailler sur Bond et ils ont fait un truc magnifique, quoi. Et j'ai beaucoup appris à les regarder parce qu'ils étaient tellement, tellement loin de ce que moi, de comment je suis en théâtre, quoi. Ils étaient tellement loin de ça. Et c'était formidable, la rencontre.
Vous parlez de manière de lire. On pourrait aussi parler des manières de faire, et c'est ce qu'on verra demain quand on plongera avec vous, Alain Françon, dans votre fabrique, l'art de la juste représentation. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Hélène Langlois et Michael Simon. Réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.